Rock Body Good Radio, pour voir Rochecorbon à travers les oreilles de Saint-Coin. Rock Body Good Radio.
Voilà, l'église de Rochecorbon. Alors j'aime bien la faire visiter parce qu'elle a, elle a quelque chose que la majorité des autres églises n'ont pas. C'est qu'elle a gardé l'église originale du 11e siècle, elle est toujours là. Alors que généralement, pratiquement dans toutes les communes, les églises ont été rasées à un moment ou un autre parce qu'elles n'étaient plus au goût du jour, parce qu'elles se dégradaient, parce que les extensions qu'on voulait faire on pouvait plus se greffer sur l'église existante, etc. Donc partout, généralement, on voit qu'au 16e, 17e, c'est une église nouvelle qui a été créée. Ben pas ici, pas à Rochecorbon. À Rochecorbon, tous les murs de l'église originelle ont été conservés. Et on peut les voir ici. C'est passé le bus.
Claude Métavant, président de l'association Le Phare à Rochecorbon.
Là, depuis le pilier, là où il y a le petit toit, jusqu'ici, là, le mur, là, en petite pierre, là, c'est le mur du 11e siècle. Elle est restée là. Ça, c'était l'église du 11e. C'était une petite église, hein. C'était pas très grand, mais elle est restée. Puis ensuite, après, on a grandi. Après, on a fait une extension. Puis après, on a fait les parties latérales au fur et à mesure des siècles. Hein. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Ça met 500 ans pour que l'église soit complète. Mais petit à petit, ça va s'agrandir. Mais on a conservé et on a le volume de l'église d'origine. Voilà, ce qui permet toujours un peu de dire... quand on dit dans tel village, il y a une église du 12e, mais qu'on se rend compte que finalement tout a été rasé et construit d'une façon différente au 16e, 17e, c'est quoi l'authenticité de cette église du 11e, 12e siècle ? Voilà. Là, ici, on en retrouve des parties. Alors je passe des fois beaucoup de temps ici, et en particulier, je parle beaucoup ici des cimetières. Parce que les gens, généralement, ne savent pas que jusqu'à la Révolution française, on enterrait les gens en pleine terre. Il n'y avait pas de cercueil. Ouais, à l'époque, du bois, ça coûtait très cher. Donc, on préférait l'utiliser pour se chauffer que de mettre ça autour d'un mort. Donc, les gens étaient enterrés en pleine terre. Puis après, la terre était recouverte. L'herbe repoussait dessus. Il n'y avait pas de tombe. Il n'y avait rien. Et puis, on enterrait comme ça les gens, au petit hasard, dans le cimetière. Bon, le prêtre, lui, après, il savait à peu près à quel endroit il avait enterré des corps, donc il essayait d'éviter de recreuser au même endroit. Si jamais il tombait sur des ossements, il disait, c'est pas grave. Ces ossements qu'il découvrait, il les mettait au pied du mort qu'il remettait en place dans la fosse. Et il disait, de toute façon, tout le monde se retrouve en famille. On est tous en famille. Donc, il se retrouvait là. Donc, ces cimetières étaient comme ça. Ben, ici, là, sur la pente, là, c'était le cimetière. C'était l'ancien cimetière de Rochecorbon, jusqu'à la Révolution française, où on enterrait les gens comme ça. Et quand après le cimetière va déménager, ben on laisse, tous les corps sont là. Donc les gens, quand ils marchent, mais quand on marche dans l'escalier, on monte, ben oui, là, oui, vous passez là, il y a des morts en dessous, oui. À chaque fois qu'ils font des travaux ici, ils sortent des eaux. Mais la population, elle est là. La population rochecorbonnaise est toujours là. Et ce qui est drôle sur ces morts aussi, c'est au 15e siècle, quand on, dans une église, quand on amenait un mort pour la cérémonie, on ne sait pas trop pourquoi, mais une des hypothèses, c'est de dire, à l'époque, on a dit qu'une église accueillait toutes les âmes, évidemment, hein, puisque c'est elle qui devait réorienter les âmes vers la bonne direction, mais quand on amenait un mort, il n'avait plus d'âme, lui. Et dans les églises, dans toutes les églises de France, hein, on va décider que les morts ne rentreront plus par l'entrée principale. Ils vont rentrer par une petite porte sur le côté, qui s'appelle la porte des morts. Et cette porte des morts, elle est là. Elle est ici. C'est la petite porte latérale par laquelle, quand il y avait un mort, on faisait rentrer le cercueil. Après, c'était pris en charge par le prêtre et puis ses vicaires. Donc, ils faisaient la cérémonie. Et ensuite, ils revenaient, qui rendaient le corps à la famille, puis après, qu'elle allait l'inhumer. Et donc, quand on raconte cette histoire-là, ça permet de se poser la question sur la façon dont on concevait les morts à l'époque. Comment on traitait les morts, comment on traitait. Je rappelle toujours que jusqu'au Xe siècle, l'Église, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le baptême. Le reste de la vie ne concerne pas l'Église. ni le mariage, ni la mort. Ce n'est qu'à partir du Xe siècle qu'on va commencer à se poser la question sur les morts. Alors pourquoi ? Parce que comme on commence à parler du... Il y a une grosse invention qui arrive au XIe siècle, c'est le purgatoire. Avant, le paradis, ce n'était destiné qu'aux saints, et tous les autres allaient en enfer. Et puis au XIe siècle, là, l'Église va introduire quelque chose qui était déjà en germe, mais qui vont l'introduire, vraiment, c'est le purgatoire, en disant, mais oh, attendez, peut-être que vous pourriez aller. Mais pour ça, il faut faire des bonnes actions. Et à partir de ce moment-là, les gens ont voulu être inhumés près de l'Église. C'est qu'à partir du Xe siècle. Avant, non, c'est pas le sujet. Alors, en ville, oui. Moi, je parle toujours en commune rurale et puis à Rochecorbon. Mais donc, les gens ont voulu être inhumés près de l'Église. Et on va les inhumer devant le portail. Et là, le portail, on va faire de l'histoire du vocabulaire français. Les gens, ils veulent être enterrés sous le porche, de telle sorte qu'ils soient le plus près possible de l'Église, pour pouvoir monter plus facilement au ciel. Et donc, cette partie qu'il y a sous le porche, donc, qui n'est pas très grande dans les églises, donc on va commencer à mettre quelques tombes, et puis on va légèrement s'étendre. Et cet endroit-là, on va l'appeler le paradisium. Le paradisium, parce que voilà, on voit la destination finale. Et ce mot paradisium va être traduit en français par vie. Le parvis d'une église, en fait, c'est le paradisium, c'est le premier cimetière. Donc le cimetière va s'installer là et va s'étendre toujours devant l'église, puisque ça a commencé sous le porche. Et ça s'étend devant la porte d'entrée de l'église. Et puis après, ça va s'étendre, nous, ça va s'étendre jusqu'en haut. On va avoir tout le cimetière ici, jusqu'à la Révolution française. Et ce qu'on va connaître, on avait deux cimetières à Rochecorbon, puisqu'il y avait Rochecorbon et puis il y avait Saint-Georges. Dans ces deux cimetières, on va rencontrer le même problème. C'est qu'à savoir, si on regarde dans les textes anciens, on voit que les curés changeaient très souvent de paroisse. Or là, les curés, après, ils ont des mandats beaucoup plus longs. Ils restent, non pas 10 ans, 12 ans, comme les curés avant, quand on voit au 16e, où des fois, ils ont des périodes très courtes. Là, ils restent sur des périodes très longues. Ce qui fait que, restant sur des périodes très longues, ils ont un problème, c'est qu'ils savent partout où ils ont enterré des personnes. Et ils commencent à se poser la question, en disant, mais attendez, j'ai plus de place, là. Là, je sais que si je tape là, là, il y a quelqu'un. Quand le curé, ils sont changés tous les 10 ans, le nouveau qui arrivait, lui, il ne savait pas trop. Il demandait aux gens, oui, peut-être là-bas, non. Voilà, les inhumations récentes, non, mais les inhumations d'il y a 10 ans, chez eux, hein, c'est 10 ans, c'est pas une génération, mais c'est une demi-génération, ça commence déjà à faire loin. Et donc là, les prêtres, ils disent, mais ça va pas, on n'a plus de place dedans. Donc ils vont chercher à étendre ces cimetières. Et une des façons d'étendre le cimetière, c'est notamment de l'étendre devant la porte de mort, qui était une porte latérale. Et donc, ils vont commencer à s'étendre là. Et c'est là que le nom va changer, parce qu'on va changer par rapport aux morts. On dit, mais attendez, la personne n'est pas morte. La personne qui est là, elle attend la résurrection. Donc, elle est en attente. Donc, on ne peut plus considérer que c'est vraiment un endroit où il y a des personnes qui sont mortes, mais des personnes qui dorment en attendant là. Donc, on va donner un nom grec qui veut dire dortoir, qui s'appelle cimeterium. Et c'est comme ça qu'on va créer le mot cimetière qui va s'imposer. Donc à partir du 15e, 16e, on ne parlera plus que de cimetière, d'ailleurs au début, c'est cimeterium. Et donc c'est ces cimetières-là qui vont commencer à s'étendre. Et à partir de ce moment-là, on voit que la localisation qui est devant la porte de l'église, c'est plus tout à fait nécessaire, ça peut changer. Et c'est ce qui va se passer à Rochecorbon. Quand on va arriver à la Révolution française, là, toute cette pente va être abandonnée. Et ils vont installer le cimetière à l'arrière de l'église. Cette fois-ci, complètement de l'autre côté de l'église. Il n'y avait plus le besoin de la localisation devant le paradisium, tout ça, c'était bien oublié. Donc le cimetière va changer, et donc on va le refaire derrière. Bah, quand on raconte cette histoire-là, ça, voilà, ça trouble un peu les auditeurs qui m'égénient pas ça, et notamment le fait que l'église, jusqu'au 10e, ne s'occupait que des baptêmes. Ils ne s'occupaient pas du reste. Ils estimaient qu'un mort, c'était pas le problème de l'Église. Singulier, quand même. Par rapport à la suite, par rapport... Puisqu'on savait que, de toute façon, tout le monde finissait en enfer. Donc, c'était pas... Il y a pas la question qui se posait. Et puis, par contre, c'est bien plus tard. Donc, on va voir les inhumations et on va commencer à s'y intéresser. Mais bien plus tard, c'est quand ils vont faire la porte des morts, etc. Que là, ils vont dire, là, il y a quelque chose à faire. Et puis les mariages, c'est le Concile de Trente, hein, c'est 1500, enfin c'est 16e siècle. C'est là qu'ils vont se dire, mais finalement le mariage, on pourrait aussi peut-être les faire quand même à l'église. Mais donc jusqu'au 16e siècle, on se mariait pas à l'église. C'était un accord entre les familles. S'il y avait un peu d'argent, on pouvait signer quelque chose devant le notaire. Mais sinon, on n'en faisait pas plus. Hein, c'était, Et donc on voit que cette église, petit à petit, elle s'est mise en place. On a pris du temps. Voilà. Les modillons, il y en a qui ont été refaits, hein. Ils sont pas d'origine, hein, tous.
Vous nous faites une visite, alors?
Et voilà. Oui.
Il ressemble bien à Meunier, là, celui-là.
Lequel? Un, deux, trois...
Le
troisième. Troisième, oui. Voilà, le troisième.
Il y a un roi, là.
Par contre, le quatrième...
Le
quatrième...
Il a la langue, non?
Oui.
Ou bien c'est le péché de,
si.
D'avoir
si.
De gourmandise.
Voilà, mais il a la langue sortie, hein.
Oui, c'est ça.
Mais en fait, la langue n'est pas tout à fait sortie, la langue, elle lèche. Je vous laisse imaginer ce qu'elle lèche.
Oui, ah oui, alors ça, c'est... Ah oui.
Nous, on vient de Paris, en fait, on était
on s'est arrêté là pour
Tours. Et
on a vu
tourisme,
village...
D'abord, c'est l'office du tourisme de Tours
oui.
qui nous a dit dans le périple, bon, bah, faut, allez, vous, si vous êtes dans le Vouvray, vous passez ici.
Et vous n'aurez pas dit qu'il y a un griteur ici qui fait les visites gratuites?
Non.
Voilà,
non.
C'est moi.
Ah, bah alors.
Mais là je suis en charge.
Bah, oui, oui,
enfin, vous pouvez continuer. Là, il y a l'histoire des modillons,
ouais,
là.
C'est ça.
L'histoire des. Qu'on appelait à l'époque d'ailleurs des grotesques.
Oui, c'est ça.
Justement. Et des fois, c'était tellement grotesque que c'était même grossier, quoi.
Ouais.
Voilà, on peut dire.
Il y a souvent des petits clins d'œil dans les.
Ouais.
Comme dans les chapiteaux.
Ouais.
On dit souvent que dans toutes ces choses-là, puisque les personnes n'avaient pas toujours accès à la lecture, que ce soit les cathédrales, les vitraux, c'était l'évangélisation. Donc,
ça, c'est l'histoire qu'on raconte.
Tout ça, donc on peut dire qu'on peut comprendre que ce soit très réaliste.
Ouais. Mais c'est pas tout à fait vrai, hein, l'histoire des vitraux.
Non, mais pas les vitraux, mais au moins les porches,
les fresques.
Ah oui.
Il y a quand même
Mais c'était plus pour eux. C'était plus une élite. Ça, quand ils faisaient des décors à l'intérieur, des vitraux, c'était pour l'élite. Il n'y a que l'élite qui pouvait comprendre. Le peuple ne pouvait pas comprendre. D'ailleurs, je veux même vous dire qu'au XVIe siècle, quand il y avait le Concile de Trente, le Concile de Trente va recréer le catéchisme, ouais. Mais pas le catéchisme pour les gens. Le catéchisme pour les prêtres.
Ah oui, oui,
parce que les
parce
prêtres.
Ils étaient un peu.
Mais ils connaissaient bien la liturgie,
oui, oui.
Mais ils ne savaient plus l'histoire et pourquoi. Et donc, on va refaire, à partir du XVIe siècle, on va refaire du catéchisme aux prêtres pour leur expliquer et qu'ils puissent réexpliquer ce qu'il y a sur les vitraux. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savaient plus le dire. Alors, l'église, elle a une petite particularité. Bon, je rigole toujours. Bon, à part qu'il y a cette tribune, hein, ça. Oui. C'est la pierre à l'extérieur. Elle a une particularité, celle-là. Elle est assez rare. C'est que, vous voyez, cette tribune, c'est la tribune où on faisait les annonces le dimanche après la messe. Alors, pas les annonces religieuses qui se faisaient dans l'église, mais après toutes les autres annonces, les terrains à vendre, les...
Garde champêtre.
Oui, c'est ça, à l'époque, il y a l'équivalent, on va dire. Il n'y avait pas ça, mais le sergent de la baronnie qui venait faire ses annonces, etc. Et cette pierre-là, c'est une pierre d'annonce qui a été installée, bah, pareil, après le Concile de Trente. C'est là qu'ils ont dit qu'il fallait qu'il y ait une communication et on va construire ça. Par contre, à l'époque aussi, c'est la fin de ce qu'on a appelé la pierre des morts. Alors, c'était quoi la pierre des morts? Dans les églises, il n'y avait qu'un curé. Puis le curé, fallait qu'il aille surtout... à l'époque, c'est surtout tourner dans les familles pour réconcilier les familles dans lesquelles il y avait une personne très malade, mourante. Donc lui, il n'arrêtait pas de se déplacer dans la commune pour aller voir les gens, puis aussi faire son travail. Mais il avait ça, c'était important, il fallait qu'il fasse ça. Donc, quand il y avait un mort... On l'amenait tout de suite à l'église. Hein. À l'époque, on ne conservait pas. Donc, il l'amenait à l'église. Et si le prêtre n'était pas là, il fallait bien attendre. Et bien, il y avait une pierre qu'on appelait la pierre des morts. Alors, il y en a une belle à Vouvray, qui existe encore devant l'église. Mais donc, nous, il y avait une pierre des morts sur laquelle on posait le mort. Et puis, on attendait que le prêtre revienne. Au XVIe, ça va changer complètement. Pourquoi? Ben, parce que c'est l'époque sur laquelle on va mettre beaucoup de vicaires à côté du prêtre. Le prêtre de Rochecorbon qui était tout seul jusqu'au 15e, après au 16e siècle, il y a 3 ou 4 vicaires à côté de lui. Donc là, il va y avoir une permanence, donc il n'y a plus besoin de pierre des morts. Donc il n'y a plus besoin de pierre des morts. Par contre, il faut construire une tribune où on va pouvoir annoncer, donc elle va être faite avec une pierre des morts. Et à quoi on sait ça? On sait ça, ça. Oui. Donc ça, la partie basse, là, ces deux parties-là, c'est l'ancienne pierre des morts qui a été cassée et réajustée. Et à quoi on sait que c'était une pierre des morts? Eh bien, c'est ça, ces petits trous, ce qu'on appelle les cupules. C'est que quand le mort avait été posé sur la pierre des morts, après on faisait l'inhumation, et en souvenir, on grattait un peu de la pierre et qu'on ramenait chez soi. On ramenait les cendres, mais là c'était des pierres. Et tout le monde creusait au même endroit. Après, on ne s'amusait pas à faire des trous partout, Donc c'est ce qu'on appelle des pierres à cupules, comme ça, qui étaient des anciennes tables des pierres des morts. Donc ici on dit, bah, c'est une ancienne pierre des morts qui a été recassée, puis ça c'est une pierre à rajouter, et qui permet de faire ici la tribune des annonces.
Je ne veux pas vous déranger, alors vous êtes donc celui qui a la mémoire et qui sait lire les archives. Ben non, mais à un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un.
Oui, tiens, une petite remarque, ça vous a intéressé, ouais. Celle-ci. Vous voyez tous les vitraux qu'on a, là, celui-là, ils n'ont aucun bout.
Ah oui, c'est un bout. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé?
Ah, ben ça, je viens l'intérieur, je vous explique. Ah, ici, d'ailleurs, vous voyez, on avait un Porsche avant.
Ah, voilà.
On voit, on a toujours la marque du Porsche. Qui permettait d'accueillir plus de monde, et notamment, c'était surtout les gens de passage. Les gens de passage ne rentraient pas dans l'église. Ils assistaient à la messe à l'extérieur. Et puis les très pauvres, y compris les pauvres qui ne pouvaient pas donner à la messe.
Et les lépreux.
Et puis, ça va. Non.
Parce que aussi, ceux qui n'étaient pas baptisés.
Voilà.
Ils assistaient à la messe à l'extérieur.
Voilà.
Et puis ensuite, parce qu'au moment de la consécration, en fait, ils ne pouvaient pas, comme ils n'étaient pas baptisés, ils ne pouvaient pas communier.
Ouais.
Et donc, ils restaient à l'extérieur pour assister. C'est à partir du moment où... C'est pour ça que très souvent, les baptistères, ils étaient à l'extérieur.
Mmh.
Et puis après, on les a mis dans l'église, mais on les met tout de suite à l'entrée. C'est parce qu'ils étaient baptisés, une fois qu'ils étaient baptisés, ils rentraient dans l'église et ils pouvaient assister à la messe.
Ouais. Qui baptisait ?
Ah ben c'était des diacres, des prêtres.
Alors dans la religion catholique, les seuls qui avaient le droit au baptême, c'est les évêques. C'est les seuls qui avaient le droit au baptême. Qui avaient le droit de baptiser les personnes.
Ah,
c'était les seuls. Et ce qui a changé ça, c'est Charlemagne.
Ah bon.
Charlemagne a décidé que ses prêtres à lui, tant pis pour les autres, ils font comme ils veulent, mais tous les curés pourraient baptiser. Ce qui avait soulevé quand même quelques discussions. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, ah ben dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'OK, ils ont le droit de faire le baptême, qui est en fait un pré-baptême, et que derrière, il y aura nécessairement la confirmation. Et la confirmation par l'évêque.
Oui, ça se tient, ça.
Oui, non, mais attendez. Voilà notre église. Très simple, très simple. Donc l'église est très simple de décoration intérieure. Elle a toujours été comme ça. Il n'y a que vers 1850 que des familles de riches de Rochecorbon disent « Ah, on veut donner un peu d'ampleur à l'église. » Ils vont la faire peindre à l'intérieur, tout décorer. Et puis, bah, presque un siècle après, ils disent « Non, c'est vraiment pas cette église ici, c'est une église simple. » Ils vont repeindre. Et d'ailleurs, on va voir, on voit les décors qui ressortent. Il y avait des décors qui refaisaient des faux vitraux entre les deux, qui ressortent au travers là, du blanchiment. Alors, cette église-là, ici, on voit la taille qu'elle avait. Bon, aujourd'hui, il y a 5 bancs, 10 bancs qui sont occupés. Il y a certaines messes où l'église est complète, parce qu'ils ont rassemblé plusieurs paroisses, voilà, pour faire... c'était plus simple pour le prêtre. Et donc, des fois, c'est plat. Mais enfin, en 1850, l'église est archi-pleine. Et 1850, et on n'a plus de... Il n'y a pas d'école à Rochecorbon. Et en particulier, il y avait un instituteur public, et l'instituteur public est parti, puis ils n'arrivent pas à en retrouver un. Donc ils vont signer un accord avec plusieurs communautés religieuses pour recréer une école libre, mais lancée par la mairie. C'est la mairie qui lance ça. Et cette école-là, ils disent, nous, c'est OK, mais on a une chose, par contre, c'est que les enfants, tous les enfants, on va les amener à la messe. Ça fait partie de notre cahier des charges, sinon on ne le fait pas. Donc on veut bien faire l'instruction, etc., pratiquement gratuitement. Mais il y a une compensation de l'autre côté, c'est qu'effectivement, on rassemble les brebis garées.
Oui.
Et donc quand ils veulent venir à l'église, bah, l'église est archi-pleine, ils ne s'en sortent pas. Donc ici, ils vont construire une tribune. Une tribune pour les enfants. Et cette tribune-là, bah oui, les enfants risquaient de passer au travers du vitrail. Donc on va boucher le bas du vitrail pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais si on ne sait pas ça, on se pose bien des questions sur ce vitrail-là. Et cette tribune va rester jusque dans les années, jusqu'entre deux guerres. Puis finalement, après, ils vont la... Parce que comme la religion baisse bien, surtout après la loi de séparation de l'Église et de l'État, là, il y en a beaucoup qui, avant, allaient à l'Église par respect, par habitude, par coutume, puis là, ne viennent plus. Et là, tout d'un coup, les effectifs, ça baisse, puis là, c'est plus nécessaire.
Voilà. Les vitraux, ils sont d'origine ici, non ?
Non, tout ça, c'était refait en 1850. Voilà. Alors on en a une grisaille de type aubazine. Je ne sais pas si vous connaissez aubazine. Alors, aubazine, c'est connu.
C'est une pierre translucide, non ? C'est
pas
ça, non ?
C'est ce qu'on appelle une grisaille. Une grisaille, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est gris, ça veut dire que c'est monocouleur. Avec des motifs géométriques. Et aubazine, pourquoi ? Parce que c'est dans le village d'Aubazine, qui est dans le sud, près de Brive. C'est là que la première fois, on voyait ces vitraux-là, qu'on trouvait des vitraux très simples, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était les plus anciens vitraux. Avant que les vitraux ne soient colorés avec des scènes, qui racontaient des scènes, c'était des vitraux simplement avec des petites formes géométriques, etc. Et l'histoire est connue à Aubazine, parce qu'à Aubazine, il y a une personnalité célèbre qui va là-bas, c'est Coco Chanel. Parce qu'elle était fille abandonnée, elle s'était retrouvée dans un hospice comme ça. Et c'est elle qui a vu dans les décors qu'il y avait dans les vitraux le logo de Coco Chanel.
Le C, là.
Oui. Donc ça, c'est refait. C'est refait, on a un maître verrier qui est très connu ici en Indre-et-Loire, mais dans tout l'ouest de la France, qui s'appelle Lobin. Et bien Lobin, c'était un peintre qui va devenir maître verrier. Et sa transition, c'est ici à Rochecorbon.
Ah, oui.
Parce que Lobin, il va être payé en 1850 pour faire les dessins. Et puis il a dit, mais quitte à faire les dessins, si je vous fais des dessins au mur, etc., avec des vitraux très ordinaires, ça ne va pas faire beau. Donc si vous voulez, je peux vous faire des vitraux qui vont avec. Alors il n'avait pas la technique, il s'était renseigné auprès d'anciens, il y avait un petit atelier à Tours qui commençait à faire des vitraux comme ça, qui était mené par plusieurs religieux qui avaient essayé de remettre ça en place, mais qui avaient du mal. Donc lui, il va s'associer avec eux. Et ici, à Rochecorbon, là, dans cette église, il va se tester, savoir si on peut faire des beaux vitraux. Et c'est là, ici, qu'il va apprendre son métier de maître verrier. Par exemple, ça, vous avez un orgue avec le dessin en haut, qui veut dire l'homme. L'homme, dans le sens de l'homme religieux, l'homme qui s'élève. Parce qu'en fait, c'était un orgue qui était prévu pour être envoyé en Thaïlande, je crois. Et puis, il y a eu une petite révolution là-bas, puis ils n'en voulaient plus. Et donc, l'organiste a fait savoir qu'il s'était en vente, et puis la commune de Rochecorbon l'a acheté. Donc, je m'amuse ici avec les gamins.
Un toit comme ça,
voilà, j'arrive avec les gamins, avec l'idéogramme de l'homme. Puis je leur dis, cherchez-le, il est dans l'église. Puis je cherche partout, mais ils ne le voient jamais.
C'est amusant.
Donc, on peut raconter, mais sur chaque étape. Hein,
pour que ça se transforme.
Ou là, par exemple, vous avez la liste des morts. Oui. Le monument aux morts, il est juste devant l'église. Oui. Mais c'est pas les mêmes noms.
Ah oui, non, oui. Ça veut dire qu'il y en a.
Ah bon ?
Et il y a beaucoup d'églises où c'est comme ça. Parce qu'en fait, la liste des morts qui est sur le monument, c'est à la fin de la guerre. Donc c'est là que les communes vont commencer à se poser la question. Puis surtout que l'État, il va financer. Il va dire, bon, on va aider toutes les communes qui veulent un monument mort, on paye. Alors, ils vont intéresser, ok, puisqu'on a de l'argent, ça aide. Il faut faire une petite souscription quand même pour compléter, mais ça va. Mais le problème, c'est quelle mort on annonce dessus ? Oui, parce que la personne qui est née ici, qui a vécu 20 ans ici, puis qui après s'est mariée avec une fille de Vouvray à côté, et puis que le couple s'est installé finalement, à part s'est mêlé à l'autre commune d'à côté, on le met sur quel monument ? Et donc, il va y avoir une commission, donc, qui est faite par le préfet, qui va faire la distribution, on prend tous les morts, puis on dit dans quelle commune on l'affecte. Alors ils hésitent, c'est compliqué. Puis il y a une deuxième chose qui va se faire, c'est qu'on commence à constater qu'il y a des gens qui vont déterrer les morts dans les cimetières près du front, pour ramener les corps dans leur commune. Donc il y a ça se fait un peu en douce, c'est même illégal. Donc l'État dit, bon, on va valider ça, on arrête ça. Donc les familles qui sont intéressées, on peut les renvoyer les corps. Mais une condition, c'est qu'on s'occupe de sortir le corps, on s'occupe du transfert, mais l'inhumation locale, c'est la famille qui paye. Et la famille qui paye, ça coûtait quand même cher, juste à la sortie de la guerre, hein, où les gens sont en forte difficulté financière, ça coûte cher. Et des fois, c'est pas forcément les parents qui peuvent payer, des fois, c'est la tante qui va payer. Si la tante, elle est dans le village d'à côté, on renterrera la personne dans le village d'à côté. On l'enterrera et on le mettra sur le monument aux morts de la personne qui a payé. Donc on va réinscrire les noms, donc on va faire une liste officielle. Donc la liste officielle, c'est la liste donc, sur le monument, qui est la liste qui a été arbitrée en commission préfectorale. Mais dans l'église, c'est pas leur souci. Eux ils disent, non, mais ce jeune-là, nous, on l'a connu jusqu'à 20 ans. Et donc on va honorer son nom.
C'est ceux de la paroisse.
C'est ceux qu'ils ont bien connus. Voilà. Ah ouais. Qui n'est pas donc la liste officielle qui est sur le monument.
Mal, hein, parce que c'était combien d'habitants là ?
À l'époque, il y avait 1500 habitants à peu près à Rochecorbon. Oui, il y en a eu pas mal. Et on a des morts en mer, par exemple. On a trois personnes qui sont mortes dans un bateau qui transportait des troupes françaises qui allaient se battre près de la Turquie. Voilà. Et sur le bateau, le bateau va être coulé par un officier, par un sous-marin allemand, qui était piloté par un officier d'origine française.
En tout cas, elle est bien jolie, votre petite église.
Oui, ce qui est dommage, c'est 1850 à 80, ce qui se passe aussi. C'est que donc il y a quelques familles aisées de Rochecorbon qui veulent donner un nouveau cachet à l'église et on veut de la modernité. Et la modernité ici, cette église qui est romane, qui était comme ça, avec ce toit, avec ce lambris là au-dessus, et bien ici, on va construire des voûtes de type, cette fois-ci, gothique. Mais la charpente en bois, elle est restée au-dessus. Elle existe toujours, elle est plus accessible. Mais non, en fait, c'est plus une église romane. C'était une église romane.
Mais le chœur, il était comme ça. Il a toujours été... Il est ancien, lui.
Oui. Ouais, il est relativement ancien, parce qu'il a été refait, mais oui, ancien. Et ce que je peux vous dire aussi, qui est toujours amusant, parce que les gens, ça les surprend aussi, c'est qu'environ, il doit y avoir 100 ou 40, 140 personnes inhumées ici dans l'église. Parce que ça se faisait jusqu'en 1750. Parce qu'en 1750, ici, on arrête. On arrête ça, on ne le fait plus.
Ils sont où? Là.
Bah oui, bah nous ici, des fois c'est dans les murs, mais les murs ne sont pas assez épais.
Sous la dalle.
Donc ici, oui, c'est sous la dalle.
Souvent c'est le clergé.
Le clergé, c'était sous l'hôtel, généralement.
Il est plat, le clergé.
Ah. Oui, il les mettait, voilà. Mais ici, ça a été refait complètement. Donc, mais c'est en dessous. Hein. Là, et par contre, là, les curés sont dans des cercueils. Des cercueils en pierre. Donc les curés sont là, les prêtres sont là, sont à peu près tous là. Et puis, parce qu'il y a des prêtres qui, eux, qui ne voulaient pas que ça soit dans l'église, ils voulaient que ça soit près du peuple, puis ils voulaient que ça soit dans le cimetière. Mais toujours dans le cimetière, près de la croix. C'était aussi la règle. Donc là, ici, mais même ici, là, tout le long, il y en a. Hein. C'était que généralement des familles aisées, quoi.
Comment vous expliquez qu'il y ait de si belles maisons dans ce petit village perdu, quand même?
Ça, je peux vous expliquer.
C'est quand même incroyable. C'est magnifique. Il y a des maisons superbes. Non, mais Rochecorbon. Ça fait pas conçu. Ah, il y avait quoi ici, alors?
Ah, mais c'est Rochecorbon, là.
Oui, voilà.
Non, alors, Rochecorbon a une histoire un peu particulière et mouvementée. Non, Rochecorbon était très connu. Alors, deux choses qui vont très marquer très profondément Rochecorbon. La première, c'est que c'est à côté de Tours où se trouvaient les rois de France. Donc tous les grands commis de l'État, enfin de l'État à l'époque, etc., tous achetaient des maisons autour. Et puis on va l'avoir le deuxième, c'est au 19e. Au 19e, Rochecorbon va reprendre une nouvelle réputation, notamment par son monument historique, la lanterne de Rochecorbon, qui fait partie de la première liste des monuments classés en France, et donc qui va faire venir du tourisme, d'autant qu'à la même période, 1840-1850, le train Tours-Paris arrive directement, et qu'à partir de 1880, on va avoir en plus un tramway qui va passer ici à Rochecorbon, un tramway rural, le premier tramway rural à vapeur de France, parce qu'avant c'était tiré par des chevaux, donc là ça va être à vapeur en 1889, donc les personnes vont venir de Paris à Tours à la gare ils montent dans le tramway, qui était le premier tramway en France dans lequel il y avait des compartiments de première classe, et va amener la population aisée ici à Rochecorbon, qui s'installait beaucoup sur le coteau de Loire aussi, mais aussi à l'intérieur de Rochecorbon. Donc il y a deux grosses périodes qui ont fait qu'on a eu des très belles maisons.
Et on a construit. Il n'y a pas une activité industrielle ou économique quelconque qui explique
si,
ça.
Si, le vin.
Oui, le vin.
Le vin qu'on a toujours préservé ici. On a toujours préservé, parce qu'on a toujours des vignes, alors qu'on est en proximité de Tours, et que la ville de Tours s'est étendue sur toutes les communes environnantes, sauf Rochecorbon, qui a conservé ses vignes. Donc on a conservé ici un aspect de village, alors que les autres sont devenues des petites villes, et puis avec beaucoup de lotissements autour. Voilà. Et nous, on n'en a pas. Enfin, il y a deux lotissements. Voilà, donc on a regardé un peu ce caractère. Mais par contre, si vous regardez les belles maisons,
Une très belle.
Ici, on est dans une vallée. Là, c'était une vallée marécageuse. Donc, un marécage depuis la nuit des temps, etc. D'ailleurs, ce qui vaut le nom ici. L'église s'appelle Notre-Dame de Vaune. Vaune, ça vient du latin vaudanum. Donc, c'était le nom latin. Et vaudanum, ça vient de vaude, le gué. Et anum, le marécage. Anna, le marécage. c'est ici qu'il y avait un gué qui permettait de traverser le marécage. Parce que plus bas dans la vallée, quand on se rapproche de la Loire, plus c'est bas et plus c'était inondable. Donc la seule façon des gens pour traverser la vallée de Rochecorbon, c'était de remonter ici jusqu'à l'église et de repartir vers la Loire. Donc c'est pour ça d'où vient le nom de la commune. Et cette commune, donc, puisque le fond est marécageux, les gens ne peuvent pas y habiter, on ne peut pas construire. Donc ils vont construire essentiellement d'un côté et de l'autre côté du coteau. Ils vont s'installer des deux côtés. Et à mi-coteau. Et pourquoi ils s'installent là à mi-coteau? C'est parce qu'à l'époque, ils ont un raisonnement qu'on remet aujourd'hui écologique, qui dit, si on s'installe sur le plateau, on utilise des terres agricoles pour construire, c'est pas bien. Alors que sur les coteaux, on peut rien faire, et bien autant y mettre des maisons. Et donc ils vont installer les maisons des deux côtés. Et les deux côtés, c'est là qu'on va voir Rochecorbon coupé en deux. Parce qu'aujourd'hui, on connaît Rochecorbon. Il y a Rochecorbon haut ici, puis Rochecorbon bas en bas. Oui. Mais ça, c'est une invention du 20e. Avant, Rochecorbon était coupé en deux. Il y avait le côté est et le côté ouest. Le côté ouest, c'est les belles propriétés. C'est là que les seigneuries étaient installées. C'est là que le presbytère était installé. Enfin, tous les grands représentants, les grands notables de l'époque. Et l'autre côté, cette fois-ci, c'est toute la petite population qui est installée dedans. Donc en face, vous allez avoir peu de belles maisons, parce qu'après, il y en a, mais qui sont construites tardivement. Mais sinon, c'était que des petites maisons et des belles propriétés de ce côté-là. Donc de ce côté-là, et puis tout le front de Loire. Tout le front de la Loire, c'est aussi des belles propriétés. Et d'ailleurs, ça va être un des tout premiers projets immobiliers en France. En France, ils vont créer un projet immobilier à la dimension de la commune, c'est que toute la face de commune va s'appeler la Côte Fleurie, et on va y construire des maisons de style bord de mer. Donc si vous promenez sur le quai de Rochecorbon, vous regarderez, vous verrez souvent des maisons de style bord de mer, donc avec des lambris, puis des toits qui dépassent beaucoup. Voilà, ça c'est de style bord de mer, parce que face à la Loire, ils s'étaient installés, vu la réputation de la commune à la fin du 19e. Voilà. Mais sinon, de Rochecorbon, effectivement, le côté riche avec les belles propriétés, et là, le côté qui était plus humble.
Il y en a vu aussi en montant des maisons qui sont troglodytes un peu. Enfin.
Ah bah, ça, tout, Rochecorbon là, était entièrement troglodytique.
En montant le chemin pour aller vers la Lanterne, on a monté une route. Et là, on a vu qu'il y avait quand même des maisons encore...
Si vous voulez, des maisons troglodytes, alors vous continuez sur la route, là, jusqu'à la sortie, presque à la sortie de Rochecorbon. Ouais. Donc quand vous verrez le panneau de sortie de Rochecorbon, là vous pouvez vous arrêter là, ou vous tournez la petite rue qui est là, et là vous allez vous promener. C'est que des maisons troglodytiques.
Ah,
oui. Il y en a plein. Tout un coteau, ça s'appelle les Pâties.
Donc on continue et c'est sur notre droite.
Donc vous sortez de Rochecorbon, donc à gauche en direction Vouvray.
Oui, c'est ça.
Et là vous allez jusqu'au bout, il y a un feu rouge.
Oui.
Là quand vous êtes au feu rouge, là vous y êtes, vous regardez sur la gauche, et là c'est que des troglodytes. Et là vous pouvez vous promener dans les chemins. Vous pouvez vous égarer, c'est pas très compliqué, mais vous pouvez faire une petite balade. Derrière, il y a des petits panneaux qui informent ça. Ils sont bien, hein, c'est moi qui les ai faits.
Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a la mémoire.
Voilà. Donc on vous raconte justement c'est que les personnes vivaient... À la Révolution française, on peut estimer que plus de 80% de la population de Rochecorbon vit dans les troglodytes. Ouais. Ce qui est très bien, les troglodytes.
Oui, mais c'est une température...
Température régulée. Juste le problème, c'est l'humidité. Mais parce que c'est l'humidité qui est inhérente au fait un troglodyte. Alors là, on ne va pas en avoir dans le bas. Hein. Mais enfin, un troglodyte qui serait fait ici dans le bas, c'est très humide. Près des nappes phréatiques, etc.
Ouais,
mais un troglodyte construit en hauteur, comme vous allez en voir dans la rue, vous verrez, il y a des constructions qui sont au-dessus de la route, là, c'est sec. Mmh. Donc c'est sec, c'est climatisé. Il n'y a qu'un mur à construire devant.
Ouais, c'est ça, voilà.
Tout le reste derrière, c'est...
C'est un peu sombre.
Poids de toiture à entretenir. Il y a une fenêtre.
Il y a des ouvertures devant, voilà. Qui était très ouverte.
Ouais. Non, c'est pas. Et on ne creuse jamais une deuxième pièce derrière. Parce que la deuxième pièce, ouais. On va trouver de l'humidité.
Ouais,
et puis il fait noir. Donc, on va trouver des arrières-cuisines. Mais on ne construira pas une pièce derrière. Donc ça se construit tout le long. Et ce que vous allez voir aussi à Rochecorbon, donc si vous vous promenez, c'est que vous verrez que toutes les maisons, par rapport au coteau, toutes les maisons sont perpendiculaires au coteau.
Oui, on a vu ça, effectivement. Ah bon. C'est pour. Pas être adossé à l'humidité,
non.
La lumière, non
c'est Non. Bah, c'est pour préserver toutes les entrées des caves.
Ah,
parce
oui,
qu'en fait, ici...
Il y a du vin.
Bah voilà. Ici, on fait le vin dans les caves. Donc si on fait un bord de rue avec des maisons, on n'a plus accès aux caves. Donc toutes les maisons sont perpendiculaires. Alors les gens disaient... Il y avait des spécialistes qui étaient venus en disant « Oui, mais en faisant les maisons perpendiculaires comme ça, ils ont la vue vers le sud. » Parce que si on avait du soleil aujourd'hui, on aurait vu que le soleil est là, celui-là. Donc ils ont dit, oui, mais la maison, comme ça, elle aurait le soleil. C'est pour ça.
On ne cherchait pas le soleil à l'époque.
Oui, mais sauf que quand la rue, elle tourne, les maisons, elles sont toujours comme ça. Ouais. Donc sur le bord de Loire, les maisons anciennes, elles sont aussi toujours perpendiculaires au coteau. Et comme ça, on laisse les ouvertures de toutes les caves. Mais les maisons, elles ont... Alors, il y en a quelques-unes. Hein. Il y en a une d'autres un petit peu plus loin dans la rue. Il y a toute une façade, mais il n'y a que la façade de la maison. Hein. Toutes les pièces derrière, c'est creusé dans la roche. Il y a juste une façade. La rue est faite avec tous les déchets de tout ce qu'on a creusé de l'autre côté. Donc, si vous regardez... là, on ne va pas les voir d'ici. Mais enfin, si vous allez vous promener dans la rue Le Bled et que vous regardez le coteau d'en face, ou le contraire, vous regardez, ce que vous voyez, c'est les grands murs. Les grands murs qui soutiennent toute la terre qui a extrait des maisons, etc., et qui fait la rue.
Il n'y a pas de... C'est la terre qui sort de là, il n'y a pas de...
C'est de la roche.
C'est de la roche.
Mais c'est une roche.
Il n'y a pas de tuffeau ici.
Mais si, c'est, on n'a que du tuffeau. On n'a que du tuffeau.
Les pierres, non, ils n'utilisaient pas quand ils creusaient.
Si, si, si.
Ils utilisaient
si.
La pierre pour construire.
Oui, mais au tout début, on construisait peu de maisons. Donc la plus grande partie, c'était plutôt du déchet. C'est, après, oui, il y a des caves. Alors tout ce qui est le bord de Loire était creusé pour faire des pierres pour la ville de Tours.
C'est ça.
Donc là, il y avait des grandes carrières, etc., qui étaient faites que pour ça. Mais ici, là, il y a eu des. Après, ils vont construire pour les habitations. Sachant que ici, comme c'est du tuffeau, il n'y a pas de grotte naturelle. Parce que le tuffeau ne fait pas de grotte naturelle. Le tuffeau ne se délite pas comme le calcaire. Lui, il reste en place. Donc tout ce qui est creusé, c'est l'homme. Donc l'homme, on va creuser, et puis voilà, toute la roche qu'on dessert, enfin qu'on sort, mais qui est un peu rendue en poudre, on fait un petit mur, ça s'entasse et ça fait la rue. Et après, ça sort compact et ça devient solide après. Ouais.
Comme quoi, rien ne se perd.
Ah, mais c'est ça la logique à l'époque. Ouais. Au 15e, 16e siècle, les gens n'avaient pas... Alors, d'abord, je disais toujours les transports. Les transports coûtaient une fortune. Un transport par un cheval, ça, le prix de location à la journée d'un cheval, c'était 10 fois le prix d'un homme. Donc quand on devait transporter des trucs, c'était hors de prix. Donc on faisait tout sur place. Donc c'est vrai qu'après, quand on va arriver au 18e, puis qu'on va commencer à construire un peu plus de maisons dures, ben on va aller dans ces caves qui sont juste à côté pour aller creuser. Et ça tombe bien. C'est l'époque à laquelle on va commencer à faire de plus en plus de vin et qu'on a besoin de caves.
Ouais.
Non, mais c'est tout. Il y avait une logique économique à l'époque.
C'est le bon sens paysan.
Voilà. Et c'était... mais c'est comme je disais toujours, hein, quand ils construisaient une maison, un endroit où il y avait les ressources.
Ouais.
Parce que s'il fallait faire importer de la pierre, même à 30 km, hein, c'était hors de prix. À l'époque, non, il fallait trouver une logique, un endroit où on pouvait trouver de la pierre, du bois ou de la terre pour faire des briques, ou etc. Il y avait une petite briquerie dans Rochecorbon, quoique l'endroit est ici pas très propice. Nous, on a de la pierre, donc on construit en pierre. Tout était construit qu'à mi coteau. Donc ça s'est construit dans le bas, mais bien plus tard. Alors il y avait une closerie, il y avait deux bricoles, mais presque rien. Parce qu'en fait, c'était inondable ici. C'était marécageux, inondable. Et là, maintenant, les gens, petit à petit... ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont canalisé la rivière. Ici, la Bédoire, on la voit bien. Bon, on peut repartir là-bas au parking.
Ouais.
On va voir que comme c'est canalisé, eh ben, l'eau, cette fois-ci, elle ne s'installe plus, elle ne déborde plus. Elle file dans la Loire. Ce qui fait que ça assèche la commune et puis ça supprime la commune de quelque chose d'essentiel en écologie. C'est les zones comme ça un peu marécageuses. Un marécage, c'est une éponge. Il pleut, ça boit l'eau. Quand il pleut plus, ça rend l'eau. Ça fait une régulation. Là maintenant, il pleut, tout part dans la Loire. Puis après derrière, c'est sec. C'est sec. C'est anti-écologique. Je crois qu'on la voit un petit peu ici. Donc notre rivière, elle est là. Donc c'est notre troisième fleuve à Rochecorbon. À Rochecorbon, il y a trois fleuves. Il y a la Loire, il y a la Bédoire. On va la voir ici. La Bédoire, là, notre petite... Donc c'est elle qui a creusé la vallée, hein, quand même. La vallée ici. Et puis notre troisième fleuve, c'est le Vouvray. La boisson. Ah, parce que ça coule aussi, ça. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs lequel coule le plus des deux. Voilà. Donc, c'est sous ce petit ruisseau qu'a creusé cette vallée-là. Hein. Donc, depuis le coteau ici jusqu'au coteau là-bas. Hein.
Merci beaucoup.
Bon,
allez,
il est midi, il faut arrêter. Hein.
Bonne balade.
Merci,
hein.
Merci. Bonne malade, bonne fête. Et vous venez de où, en fait?
On est à
Paris.
Parisien, d'accord.
Bienvenue, passer quelques jours et donc 4 jours.
Bienvenue.
Je vous recommande de passer par là.
Eh bien, écoutez, vous avez bien fait.
La prochaine fois, nous retrouverons Claude à l'Observatoire pour une autre balade et de nouvelles histoires sur la commune de Rochecorbon. Rock Body Good Radio.